Enfin, quand je fais le training, cette partie physique, en plus, nous, on faisait encore du footing, du jogging, et on faisait des marathons. Donc, chaque journée, on courait de 30 à 40 km par jour, en plus de 4-5 heures de tambour. Et nous, en fait, les tambours, les petits tambours que vous avez vus, ils ont des. Comment dire, ça se ferme, donc c'est un peu genre métal, vis. Nous, on les avait en cordes. Donc, chaque jour, pendant 20 minutes, on devait tirer les cordes pour que ça nous donne un ton plus aigu. Et puis après l'exercice, après la journée de jouer, on les relâchait, puis chaque matin on le refait.
Le taïko, pour vous, c'est une longue histoire. Enfin, c'est une histoire qui débute en 1978. Vous faites un voyage en Asie, un voyage où vous n'alliez pas spécialement à la découverte de cet instrument. Mais il y a eu un déclic, un choc, quelque chose de particulier. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Donc, en fait, c'est en 1981, quand je suis allé au Japon, un peu par chance, un peu. J'y suis allé en échange culturel. Et j'ai passé donc une année en essayant plusieurs trucs. J'étais intéressé à la culture, bien sûr à la musique. Et je crois que c'était la 4e ou 5e mois, j'ai entendu parler d'un groupe. C'était un genre de commune qui vivait ensemble et qui faisait de la musique. Et ça m'a vraiment intéressé.
C'était les hommes des Cosas, c'est ça?
C'est ça, oui. Et je leur ai écrit une lettre. Et j'habitais à ce moment-là à Osaka. Et je leur ai dit que j'étais très intéressé de voir un peu de voir comment ils vivaient. Et puis j'ai dit si je pouvais venir même une semaine, je ferais la vaisselle, etc. Je nettoierais. Et donc ils m'ont laissé venir. Mais avant ça, en fait, ils venaient à Osaka pour un concert. Donc ils m'ont invité à venir et à parler avec le directeur. Et pendant cette interview, donc, il était intéressé justement à ce que je faisais au Japon. Et puis à la musique, il m'a demandé ce qui m'intéressait. Et puis je lui ai dit, j'aime beaucoup la musique. Et à ce moment-là aussi, il y avait un jour de flûte de shakuhachi. Et c'est la première fois que j'ai entendu le shakuhachi. À ce moment-là aussi, c'était vraiment un déclic que je jouais de la flûte traversière. Mais quand j'ai entendu le shakuhachi, je me suis dit, ça, je dois absolument apprendre. Et puis le taiko, c'était incroyable. C'était sur une grande scène. Et puis il y avait justement un tambour de cette grandeur. Donc c'était vraiment un grand choc. Je me suis dit, je dois absolument trouver une façon d'apprendre ça. Et puis, après mon année avec ce d'échange culturel, je leur ai demandé si je pouvais rester plus longtemps. Ils m'ont aidé à faire le visa. Et puis, quelques mois, je pensais de rester quelques mois. Quelques mois se sont facilement tournés en 18 ans.
C'était quand même particulier de pouvoir entrer dans cette famille, de jouer avec eux, parce qu'on peut imaginer que dans certains cas, ça peut être un cercle un peu fermé, non?
En effet, il y a certains groupes, en fait, à ce moment-là, c'était donc un peu le début de la renaissance du taiko. Bien sûr, il y avait des groupes qui auraient été beaucoup plus fermés, ceux qui sont plus traditionnels. Mais le directeur de Honde Koza était donc très intéressé à mener ce style de musique un peu partout dans le monde. Donc il était intéressé justement à avoir des personnes intéressées de l'extérieur du Japon. Et lui, il était très ouvert à amener des personnes non japonaises à apprendre justement la culture de Koto, ou bien le shakuhachi, etc., le taiko.
Vous créez Taikoza il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Le groupe a fait en 1995. Vous faites le tour du monde. Hein. Vous êtes engagé en Europe, au Mexique, au Canada. Beaucoup de. Pour vous, c'est une. Je ne dirais pas une réussite, mais c'est quand même un chemin tout à fait particulier.
Oui, en effet. Au début, je pensais simplement d'abord jouer justement avec le groupe, et il me semblait que je voulais être intégré, je voulais que la musique soit en premier abord et pas tellement qu'on voit que oh, il y a un étranger qui joue sur scène. Et donc vraiment j'essaie de m'imbiber de cette musique, de la culture, de toutes les manières, en regardant du no, du kabuki, etc., pour vraiment reconnaître et puis comprendre justement le tempo, etc., le concept du ma, qui est en fait ce qui se trouve entre deux sons. C'est pas vraiment, il n'y a pas un conte, mais c'est quelque chose qui se ressent, c'est qui se trouve beaucoup dans la musique japonaise. Et ça, c'est un concept un peu difficile à comprendre d'abord. Et puis petit à petit, justement, en jouant, en écoutant les autres jouer, en écoutant justement dans différents un peu mondes de la musique japonaise, petit à petit, on comprend un peu ce concept.
Le concert que vous présentez, il fait partie de cette tournée que vous avez lancée maintenant il y a quelques temps. Voice of the Earth, la voix de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous ?
Ben pour moi, c'est un peu les tambours japonais, c'est un peu comme une voix des dieux ou une voix de la Terre, cette énergie qui nous vient. Et ces tambours existent pendant des milliers d'années, donc c'est vraiment un tambour aussi dans sa simplicité, dans la fabrication. Et il semble que c'est très proche de cette énergie terrestre. Et enfin, il y a aussi tous les sons de la nature avec la flûte, etc. Il y a le vent et même les tambours. On s'imagine parfois le tonnerre, bien sûr, mais aussi les vagues qui contre les rochers, etc. Donc il y a tous ces sons et il semble que c'est vraiment un son de la voix justement de cette terre avec tous les sons qu'on entend de la nature.